Alors, si vous voulez vous joindre à moi, on va continuer notre étude dans Genèse. On est rendu au chapitre 12. Genèse, chapitre 12. Content de voir ça, que les gens se lèvent quand on lit la parole de Dieu. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, puis c'est vrai que c'est un signe de respect. On ne prend pas nécessairement assez conscience que Dieu est présent et qu'on se doit de manifester du respect. Genèse, chapitre 12 et verset 10 à 20. Alors, Genèse 12, 10 à 20. « Mais la famine étant survenue dans le pays, Abraham descendit en Égypte pour s'y retirer, car la famine était grande au pays. Et il arriva, comme il était prêt d'entrer en Égypte, qu'il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une fort belle femme. C'est pourquoi il arrivera que quand les Égyptiens t'auront vu, ils diront, « C'est la femme de cet homme. » Et ils me tueront, mais ils te laisseront vivre. Dis donc, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que par ton moyen, ma vie soit préservée. Il arriva donc qu'aussitôt qu'Abraham fut venu en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle. Les principaux de la cour de Pharaon la virent aussi, et la louèrent devant lui, et elle fut enlevée pour être menée dans la maison de Pharaon, lequel fit du bien à Abraham à cause d'elle, de sorte qu'il en eut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit « c'est ma sœur » car je l'avais prise pour ma femme, mais maintenant voici ta femme, prends-la et t'en va. » Et Pharaon, ayant donné ordre à ses gens, ils le reconduisirent, lui, sa femme et tout ce qui était à lui. Alors on va demander à Dieu de bénir notre étude. Seigneur Dieu Tout-Puissant, on vient en ta présence, nous sommes tes enfants, tu nous as accordé la vie spirituelle de toute éternité alors que nous étions dans nos péchés morts. Et Seigneur, tu nous as donné la vie par la régénération, tu nous as fait connaître notre état de pécheur perdu et tu t'es révélé à nous, Seigneur, pour qu'on comprenne que toute la solution à tous nos problèmes spirituels était dans la personne glorieuse de ton Fils Jésus-Christ. Et Seigneur, on te prie de permettre qu'on comprenne de mieux en mieux le rôle et qui est Jésus-Christ, ce qu'il fait, ce qu'il a fait pour nous au cours de toute notre vie, ce qu'il fera jusqu'à notre mort et même après. Alors, on aura la chance de vivre avec lui au ciel et de le découvrir dans sa beauté, comme on a chanté ce matin. Alors, on te prie, Seigneur, de nous bénir, d'être avec nous. On te demande pardon pour nos péchés. On te prie de permettre que, Seigneur, qu'on reçoive ta parole, comme on se doit de la recevoir, et que ton esprit nous éclaire et nous guide, et nous fasse comprendre ta parole, et fasse en sorte, Seigneur, qu'on la mette en application dans notre vie de tous les jours. Et tout cela pour ta plus grande gloire. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Vous asseoir, j'ai donné comme titre au sermon de ce matin, « Les épreuves révèlent les faiblesses d'Abraham ». Alors, on le sait, les faiblesses morales, c'est quelque chose qui est commun à absolument tous les hommes. Qu'on soit le meilleur des chrétiens ou le plus faible des chrétiens, on a tous des faiblesses. Et il y a une chose qui est à remarquer dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on est faible même dans nos forces. Si on faisait venir, quand on se connaît, disons, pendant des années, là, on finit par connaître parmi nous autres les forces de chacun. On pourrait faire avancer une personne, dire « Ah, elle est ci, ou lui, il y a ça ». Et on connaît certaines caractéristiques des personnes, moralement, chrétiennement, on reconnaît certaines choses. Mais ce qui est remarquable, c'est que dans le texte d'aujourd'hui, Abraham était, dans les Écritures, on l'appelle l'ami de Dieu, on le qualifie de père des croyants, et on va découvrir que Abraham, même s'il était le pire des croyants, c'était sa force, le père des croyants, la foi. Cependant, on voit que il va avoir l'épreuve qu'il va vivre, va révéler ses faiblesses. Je pense qu'il y a une leçon à retenir pour nous aujourd'hui. c'est que le Seigneur va aussi se servir des épreuves pour nous révéler les nôtres. Est-ce que c'est une bonne chose que le Seigneur nous fasse voir nos faiblesses?
Oui.
Très certainement. Parce que plus on connaît nos misères, plus on connaît nos faiblesses, plus on est porté à se fier sur lui plutôt qu'à se fier sur nous. Exactement. Alors, on va regarder le texte sous trois angles différents. Les faiblesses déclarées, dans le verset 10, les faiblesses démontrées, dans le verset 11 à 16, et les faiblesses démasquées, versets 17 à 20. Une chose qui est à remarquer concernant les Saintes Écritures, c'est que la Bible est toujours absolument impartiale quand il s'agit de révéler les faiblesses des saints, même les plus grands. Quand on lit l'Ancien Testament, peu importe le personnage biblique qu'on rencontre, à un moment donné, on le voit à quelque part, il y a une faiblesse. Et le Seigneur, c'est pas à cause que on considère ces gens-là comme des grands personnages. C'est rare que les Écritures ne nous donnent pas un côté faible du personnage. Alors, c'est très intéressant de regarder ça, parce que si on se dit, si le plus grand et le plus fort des chrétiens a des faiblesses, même dans ses forces, alors ça nous remet à notre place et ça nous remet dans l'humilité un petit peu. On sait dans les Écritures que l'Égypte, ça a toujours été le symbole du monde. On a vu dans le verset 9, la semaine dernière, que Abraham, parce qu'il ne s'appelle pas encore Abraham, le Seigneur va lui changer le nom un petit peu plus tard, avait pris la direction, il était arrivé en Canaan, et il s'était rendu compte que le pays était hostile, et que c'était un pays de beaucoup de pécheurs, que la prospérité promise n'était pas au rendez-vous, et que lui était vieillissant, et que sa femme était stérile, et que lui se devait de continuer à avoir la foi que Dieu va se servir de lui pour emmener le Messie. Mais on se replace un peu dans le contexte, là. On a 75 ans, puis la femme qui est à côté de toi est stérile, puis le Seigneur, il a dit qu'il était pour te donner un Messie, mais que c'est dans la lignée d'un de tes fils que va venir le Messie. Et là, toi, tu as 75, tu rentres dans le pays, tout est pauvre, tout est hostile, et là, tu te dis, ouais, c'est-tu normal qu'on ait des fois des petites crises de foi, des fois quand on vit des affaires semblables? Alors, bien entendu, si la Bible nous révèle les faiblesses d'Abraham, bien sûr que les épreuves vont aussi nous révéler les nôtres, nos faiblesses. Je ne sais pas si le Seigneur vous en a montré quelques-unes depuis que vous êtes chrétien. Oui, il m'en a montré tout un paquet. Puis plus je me connais, plus je me trouve faible. Puis plus je me connais, plus je me trouve faible, plus c'est une bonne chose. Parce que je ne me fie plus à moi-même. Je sais que je ne suis pas bon en moi-même. C'est juste dans mon rapport avec lui que je deviens. Si je suis fort, si je suis productif ou sanctifié ou quoi que ce soit, c'est en lui, toujours en lui. Plus on comprend ça vite, mieux que c'est. Mais je pense que ce n'est pas la normalité de la vie chrétienne qu'on connaît ça rapidement. Le Seigneur se sert de tous les moyens de la providence, de nos circonstances pour nous transformer tranquillement. Alors, la Bible nous avertit que notre pèlerinage terrestre sera rempli d'épreuves. Alors, on lit par exemple dans Actes 14, au verset 22, « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et leur représentant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est pas que la parole ne nous avertit pas, non. C'est par beaucoup. Une affliction, ça fait mal, ça. Quand on vit une affliction, là, c'est quand on ne file pas bien là-dedans, on aimerait bien l'éviter, puis passer à côté, comme on dit. Mais le Seigneur nous dit que c'est par ce moyen-là qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, les afflictions et les épreuves ont un rôle dans notre vie. Il faut le comprendre, il faut l'accepter. Dans 1 Pierre, au chapitre 1, les versets 6 et 7, on lit « En cela, vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut. » La parole nous dit que les épreuves, ça va nous attrister. C'est vrai quand on traverse une épreuve qu'on est attristé. Mais ça nous dit que c'est nécessaire. Elle dit, puisqu'il le faut, et dans le verset 7, c'est « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, vous tourne à louange, à honneur et à gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que plus on va connaître des épreuves, plus ça va nous transformer, plus ça va nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ, et ça va tourner à notre avantage lors de l'apparition de la deuxième venue de Jésus-Christ. On ne reçoit pas souvent les épreuves dans cette façon-là. On reçoit une épreuve, on dit « Merci Seigneur, parce que Seigneur, ça va me changer, ça va faire de moi un meilleur homme, une meilleure femme, un meilleur enfant. » On ne reçoit pas souvent que ça, mais pourtant, ça devrait être reçu comme ça. Alors, on va regarder le verset 10, et on va relire le verset 9 pour nous rendre compte que quand il est rentré dans le pays, il allait de campement en campement, mais il s'en allait dans une direction qui n'était pas la bonne. C'est un peu comme quelqu'un qui devient chrétien aujourd'hui, qui est porté à retourner dans le monde, plutôt que de s'installer dans la vie chrétienne avec. Alors, ça dit, « Puis Abraham partit marchant de campement en campement vers le midi. » Alors, le midi, c'est toujours le sud. Alors, il était dans le pays de Canaan, mais le midi, c'est le sud de Canaan. Et si tu descends toujours au sud, tu vas arriver où? En Égypte. L'Égypte, ça a toujours été une image du monde. Quand on dit que le Seigneur a sorti son peuple d'Égypte, nous aussi, il nous a sortis d'Égypte. Mais c'est de l'Égypte, on pourrait dire spirituelle, il nous a sortis de cette Égypte-là. Alors, ça dit, « Or, il y eut une grande famine dans le pays. » Et voilà l'épreuve. Une famine, c'est pas drôle. Il n'y a plus rien à manger. Et là, tu te mets à t'inquiéter, qu'est-ce qu'on va faire? On va crever. Mais là, ce qui arrive, la tentation, est que tu perds la confiance en Dieu, puis tu mets ta confiance en toi-même. C'est exactement ce qu'Abraham a fait. Alors, il descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. On va voir que les faiblesses, on en voit au moins trois dans le verset 10, même s'ils ne sont pas mentionnés par leur nom. Le premier, c'est le déplacement de la confiance. On se devrait d'avoir toujours pleinement et continuellement confiance en Dieu, peu importe les circonstances dans lesquelles on est placé par le Seigneur lui-même. Mais le déplacement, ici, on va voir que Abraham va déplacer sa confiance qu'il avait, qui était centrée sur Dieu, et il va maintenant la centrer sur lui-même et sa sagesse propre. Alors, ça ne fait pas longtemps qu'il est rentré dans le pays de Canaan. Qu'est-ce que le Seigneur lui avait dit? « Sors de ton pays, viens dans le pays de Canaan. » Il n'avait pas dit « Va-t'en en Égypte. » Il aurait dû avoir la foi suffisante pour dire « Je suis dans Canaan. » Les circonstances sont difficiles, mais Seigneur, je reste ici parce que c'est ici que tu m'as appelé, que tu as voulu que je sois. Ça nous donne une leçon. Quand on nous arrive à une épreuve, on est porté à vouloir l'esquiver, à se tasser, à l'éviter. Alors, ça fait pas longtemps qu'il est rentré dans le pays de Canaan et il en ressort, il veut en ressortir. Alors, c'est sûr que les pressions de la vie, ici, dans l'occurrence, c'est une famine. Mais peux-tu en avoir des circonstances difficiles? J'ai connu des chrétiens, ils ont connu des périodes de chômage, ils se font clairer, l'épouse meurt, un enfant meurt. Et quand on traverse ça, oh, là, notre épreuve, notre foi est mise à rude épreuve. Alors, si Abraham n'a connu des épreuves, bien sûr, nous aussi, on en a connu. On va en connaître encore jusqu'à ce qu'on traverse avec le Seigneur. Et le Seigneur, on l'a déjà dit à maintes reprises dans les sermons, le Seigneur se sert des circonstances, de nos circonstances providentielles. C'est un grand mot providentiel, mais ça veut tout simplement dire les circonstances que Dieu place dans nos vies à tous les jours ont tout un rôle. Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on est chrétien, on aime Dieu. Parce que si on n'aime pas Dieu, par définition, on n'est pas un chrétien. Donc, ça dit toutes choses. Il y a des choses qui sont très agréables à vivre. C'est sûr que si le Seigneur me dit, « Bon, il y a une maison qui est mort, puis il t'a mis sur son testament, puis il t'envoie 1 million, puis voici le chèque. » Ah, ben là, je vais dire, « Dieu me bénit, Dieu me bénit, Dieu me bénit. » Mais s'il permet d'autres choses qui sont désagréables, la maladie, le chômage, perte d'emploi, une faillite, On en voit toutes sortes de problèmes qui arrivent dans la vie, hein, des séparations, des mortalités. Alors ça, on est porté à penser que ça, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Tout est dans le plan de Dieu. Alors dans les Écritures, la famine est souvent servie, le Seigneur s'en sert souvent, soit pour châtier les méchants, punir les méchants, ou il peut s'en servir pour corriger le croyant et améliorer son caractère. Bien sûr, ici, dans le contexte, on parle d'une famine. Ça ne veut pas dire qu'au Canada ou au Québec, le Seigneur va nous envoyer une famine, quoi que ça se peut. Mais là, il n'y en a pas. Mais des famines, ce n'est pas nécessairement juste... Alors, je pense qu'il a choisi le mot famine pour montrer qu'il te manque de quelque chose. Le principe, le Seigneur peut t'envoyer une circonstance qui va être difficile pour toi et tu vas vivre l'équivalent de quelqu'un qui vit une famine dans un pays comme... Alors, maintenant, on voit que Abraham, toute son énergie va maintenant déployer pour tenter l'évasion et l'évitement. T'es dans Canaan. Le Seigneur, il t'a dit d'être là. Si tu es là, tu es dans sa volonté. Mais si tu essaies d'en sortir parce que tu commences à raisonner, ben oui, mais on va crever si je reste ici. Il faut que je m'en aille là, quelque part dans un pays où il y a de quoi manger. Du point de vue humain, on peut comprendre. Mais c'est quand même un manquement qu'il y a eu, Abraham. Alors, il y a une autre chose. Alors, le déplacement de la confiance, sa confiance qui était en Dieu, parce qu'il a sorti du pays, il a emmené sa famille. Imaginez-vous, les déménagements, ce temps-là, c'était pas des vannes de 45 pieds, là. C'était des genres de chariots avec des roues de bois, puis les animaux, puis les bébés. Là, ça devait être terrible de faire des voyages de centaines de kilomètres et même davantage. Alors, il avait obéi à Dieu en sortant du pays, mais là, il rencontre des difficultés. Alors, la première chose, première faiblesse qui est déclarée, sans que ça soit mentionné, les mots soient mentionnés, on voit qu'il y a un déplacement de la confiance de Dieu à lui-même. Le deuxième problème, c'est qu'il commence à connaître les difficultés du voyage. Alors, il commence à se rendre compte que le pays de Canaan est un pays inhospitalier et rempli de méchants. Fait que là, tu te mets à raisonner, tu dis, Dieu m'a dit de sortir là-bas pour m'emmener dans un pays où je vais être béni. Puis là, j'arrive là, puis tout ce que je vois, c'est de la méchanceté. Ton petit hamster, je m'ai tourné, comme on dit. Alors, la chose, la prospérité qui est promise n'est pas au rendez-vous. Il a 75 ans. Son épouse est stérile. Et il voit très mal comment les promesses de Dieu vont s'accomplir à travers de tout ça. Alors, c'est les doutes qui commencent à s'installer. Peux-tu arriver que nous aussi, quand on traverse des périodes difficiles où on se dit, coudonc, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a-tu oublié? Il se souvient-tu comme je suis un de ses enfants? Alors, les doutes. Alors, il se demande comment Dieu va... Mais il y a une chose à son avantage pour témoigner de sa foi. Il ne décide pas de retourner au pays de Ur. Il y a une faiblesse, mais au moins il ne veut pas retourner dans le pays idolâtré dans lequel il était. Autre problème qu'on voit, c'est sa distorsion de son sens moral. Quand on est éprouvé, parfois on peut être porté à exagérer le coût de notre foi. Il y a un coût à notre foi. Hein? Parce que des fois, quand ça va mal, on peut être porté à vouloir moins témoigner. Et on peut perdre des amis. Oui, j'en ai perdu. Même dans ta famille, tu peux perdre des gens qui ne veulent même plus te parler. Parle-moi plus de la Bible, mais plus n'attendre de parler. Ça fait que ça coûte de quoi, là? Tu perds un ami, tu perds un membre de famille. Et tu vois aussi des délais dans l'accomplissement des promesses divines. Et tu vis des insécurités et toutes sortes de choses. Alors, quelle est la tentation ici d'Abraham? C'est d'essayer de régler le problème de la famine par ses propres moyens. Et lui, le moyen qu'il voit à sa disposition, c'est qu'il dit, ça a l'air qu'en Égypte, il y a de quoi manger. On s'en allait en Égypte. Quand on regarde dans Exode, au chapitre 16, au verset 3, on peut dire que pour Abraham, c'est un début de dérapage. Il commence à déraper un petit peu. Puis on va voir que le dérapage va être plus complet quand on va rentrer dans le verset 11. Exode 16, verset 3. « Et les enfants d'Israël leur dirent, « Ah, que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des potées de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez emmenés dans ce désert pour nous faire mourir de faim dans cette assemblée. » Oui, les enfants de Dieu ont vu la puissance de Dieu quand ils ont fait sortir d'Égypte. Puis, il n'était pas aussitôt sorti d'Égypte que là, il commençait à mettre la faute sur Moïse. « Hey, tu nous as fait sortir d'ici pour nous faire crever de faim. On était bien là-bas, on avait de quoi manger, on avait tout. » Et on va regarder maintenant le deuxième point, des faiblesses qui vont être vraiment démontrées par des faits. Et le premier fait, c'est le retour à l'équivoque, le recours à l'équivoque. L'équivoque, on connaît tous ça, équi, ça veut dire égal, voque, ça veut dire voix. Ça veut dire qu'à partir d'une affirmation que tu fais, la chose veut dire deux choses en même temps. La publicité utilise ça à tout le bras, l'équivoque. Alors, on dit une phrase, mais la phrase a comme tout deux sens. Tu sais, des fois, on dit, il parle toujours à double sens. Fait que si quelqu'un dit « Ouais, mais tu as voulu dire ça », non, je n'ai pas voulu dire ça, j'ai voulu dire ça. Équivoque, ça veut dire, tu peux le prendre dans un sens comme tu peux le prendre dans l'autre. Mais quand c'est utilisé sciemment, ça devient un péché. Puis c'est ça qu'il a fait Abraham. Au lieu de dire « Je vais rentrer en Égypte, je vais faire confiance à Dieu, que si Dieu ne veut pas que quelqu'un la prenne, ma femme, ils ne la prendront pas. Puis si Dieu veut, ils ne me tueront pas à cause de ma femme. Fais confiance à Dieu. » Non, là, il utilise l'équivoque. Ce n'est pas un mensonge, c'est un demi-mensonge. Un demi-mensonge, est-ce que c'est une vérité ou un mensonge? C'est un mensonge. Alors, Genèse 12, versets 11 à 13. « Et comme il était prêt d'entrer en Égypte, » Voyez-vous, il prépare mentalement. Il se prépare mentalement. Il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme. » Alors, à cette époque-là, quand tu rentrais dans un pays et que la femme était belle, bien, les grands du roi ou de Pharaon, appelez-les comme vous voulez, ils disaient, on a vu vraiment une belle femme. Puis dans ce temps-là, les rois, ils prenaient le top. Ils prenaient la crème des crèmes. Alors, c'était risqué, là, de dire, alors d'emmener une belle femme dans un pays comme ça. Et, verset 12, il arrivera que lorsque les Égyptiens t'auront vu, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront. Et ils te laisseront vivre. Voyez-vous, encore un petit peu un manque de confiance en Dieu, pensant que Dieu n'est pas capable de le protéger. Et là, il dit à sa femme de mentir. Alors, il dit, « Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que j'ai la vie sauve grâce à toi. » Alors, ici, Abraham fait preuve de confiance en lui-même et dans ses propres moyens pour affronter la difficulté de la situation. Alors, c'était un peu comme s'il raisonnait, puis il disait, « Si les Égyptiens me tuent pour m'approprier de ma femme, que deviendra la promesse divine et la bénédiction future? » C'est un peu comme si tu veux, tu es comme dans une attitude de vouloir aider Dieu. Tu dis, ben voyons, là, c'est pas de bon sens. Moi, je vais faire quelque chose pour comme ça tient pas de bout, là. Alors, pour le faire, bien entendu, il utilise un moyen qui est condamnable, la tromperie. Saraï, cependant, était sa demi-sœur. Donc, c'était la fille de son père qui avait marié une autre femme, puis lui était le fils de mais sa mère n'était pas la même mère. Donc, il avait marié sa demi-sœur. C'était pas sa sœur, c'était sa demi-sœur. En disant, c'est ma sœur. Voyez-vous, l'équivoque, c'est à vrai dans un certain sens, mais c'est à faux dans un autre, parce qu'il a oublié de dire, comme des fois on peut mentir par l'omission, hein. On peut mentir en disant quelque chose qu'on sait qui est faux, mais on peut mentir en ne mentionnant pas quelque chose qu'on devrait mentionner, mais qu'on ne mentionne pas parce qu'on se dit, peut-être qu'il va le prendre dans un sens autre que moi j'ai voulu dire. Alors, il omettait de dire que c'était son épouse. Mais dans Genèse 20, on apprend quelle était sa demi-sœur, parce que Genèse 20, verset 12, ça dit, « Mais aussi, en vérité, elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est point fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. » sa demi-sœur, mais là, il emmenait sa femme à mentir dans le but de protéger sa vie. Ou peut-être de penser que c'était pour aider à ce que Dieu réalise sa promesse. On est pas toujours très brillant, des fois. Et là, il place sa femme vraiment dans une situation très risquée. Voyez-vous, 14 et 15. Et dès qu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens, comme de raison, c'est arrivé, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle. Et les princes de la cour de Pharaon la virent et la louèrent devant Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Bien sûr, ils ont vu la femme, ils ont dit allô à Pharaon, ils ont dit, il y a tout un bébé, là. Elle est belle, pas à peu près, là. Ça, c'est une femme qui est un pharaon qui mérite d'avoir ça. Fait que comme de raison, pharaon, il a dit, venons chercher ça, que ça va, quoi, que ça a de l'air. Et là, il l'a emmené dans son harem. Alors, on ne tarde pas non plus, à lisant ces versets-là, à constater que les meilleurs des plans des hommes, il pensait d'avoir un bon plan, lui, en disant ça, là, comportent des imprévus et de l'incertitude. Alors, il faisait très mal de servir de son épouse et de risquer sa vertu et son honneur. Les complications et les empêtrements n'ont pas tardé à montrer leur face hideuse. Nous devons, bien sûr, comme leçon dans un texte comme ça, apprendre à faire confiance absolue au Seigneur et à se méfier de nous-mêmes dans nos difficultés et dans notre marche chrétienne en général. Je vais prendre quelques exemples. On parlait tantôt de grands hommes de Dieu, que les Écritures ne ménagent pas même les grands, ceux que la Bible déclare elle-même comme étant des grands croyants. Abraham, qui est un modèle de foi, pêche par manque de confiance en Dieu et en croyant qu'il se doit d'aider Dieu. Moïse, qu'on dit des Écritures, qui était un modèle de douceur, finit par pécher par colère. Voyez-vous, c'est à sa force. La douceur, c'est à sa force. On dit que c'était l'homme le plus doux qu'il y a eu sur la terre. Mais le peuple l'ont tellement étiré, comme on pourrait dire, qu'il a fini par faire une grosse colère, et ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté très cher. Un autre, Salomon, dont on dit qu'il était un modèle de sagesse, dont Dieu lui avait dit, tu ne marieras pas des femmes étrangères parce qu'ils vont t'entraîner dans l'idolâtrie. Comme de raison, il a voulu se penser plus fin que ce que le Seigneur a dit. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé exactement ce que le Seigneur avait dit. Un autre, Pierre, modèle d'audace. Il n'avait dedans, Pierre. Il m'en est jusqu'à temps que le Seigneur l'éprouve et lui montre que, dans le fond, il était bien plus faible qu'il croyait, là. Mais on est tous demain. Dans notre foi, pas une personne qui est chrétien qui n'a pas un point fort, plus que les autres, peut-être des fois, dans certains cas. Là. On voit un chrétien et on dit, lui, là, ou elle, là, sur ce côté-là, lui, elle l'a-tu l'affaire ou ça ne l'a pas? Mais souvent, c'est même dans ce qu'on a de fort, le Seigneur va venir nous montrer qu'on est faible aussi, même là. Alors, on voit que les Écritures ne ménagent pas ceux qu'elles considèrent comme étant des grands croyants. Elles nous montrent leur faiblesse. Et l'autre chose, dans le verset 16, qu'on voit que le Seigneur va lui montrer, c'est la rétribution. La rétribution, ça, c'est une des doctrines que moi, je trouve fascinante dans les Écritures, parce que le Seigneur, non seulement il va trouver ton péché par lequel tu as péché, mais il va te rétribuer. Souvent, on va prendre un exemple, si tu pèches par orgueil, bien, il va t'humilier. Puis, tous les péchés, c'est la même chose. Il prend le péché sur lequel tu es faible, et il fait en sorte que tu connaisses une expérience qui va t'amener exactement le contraire. Tu es orgueilleux, supposons, tu fais un péché parce que tu t'es... Et le Seigneur arrive puis il te fait... Pouf! Il te dessouffle ta ballonne. Moi, j'appelle souvent ça d'essouffler ma ballonne. C'est une ballonne, tu souffles, là, tu prends une aiguille, pouf, tu appelles. À un moment donné, si tu la reprends à un autre ailleurs, puis là, nous autres, on a une ballonne qui ressouffle continuellement. Fait que le Seigneur, il y a des aiguilles. Puis il nous pète notre ballon. Pouf, pouf, pouf. Il y a un chrétien, un pasteur que j'ai connu il y a beaucoup d'années, il m'avait dit cette phrase-là, je ne l'ai jamais oublié, puis je sais que c'est vrai. Il dit, la tâche la plus grande que le Seigneur fait dans la vie de tout chrétien, c'est de l'humilier. C'est à réfléchir. Hein? Ça veut dire qu'on est des monstres d'orgueil. Le plus grand péché que l'homme accomplit dans sa vie, c'est l'orgueil. On est tous orgueilleux d'une façon ou d'une autre. Ça ne se manifeste pas tout de la même façon, mais ça se manifeste tout le temps. Et quand je vous dis que le Seigneur pète notre ballon, fiez-vous sur moi, il va vous la péter, votre ballon. Parce qu'il faut qu'on revienne à notre vraie proportion de qui on est par rapport à lui. Alors, si on s'enfle la tête, pouf! Combien on a vu ça dans nos vies, des gens, des fois qui se sont enflés la tête et que le Seigneur lui a pété le ballon. Il peut péter un autre aussi. Alors, verset 16, on a le côté rétribution. Ça dit, « Il fit du bien à Abraham à cause d'elle. » Il y eut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Pharaon était généreux, bonhomme. Il dit, ah, OK, moi, je vais prendre ta sœur. Je vais te donner toutes sortes de patentes, là, des animaux, des êtres humains pour te servir. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas un certain sens de... Mais, à un moment donné, probablement qu'un jour... Abraham s'est réveillé puis s'est rendu compte du côté mercantile de son affaire. J'ai vendu ma femme pour des brebis. Là, la conscience a dû commencer à le travailler un petit peu. Puis là, il devait s'imaginer qu'est-ce que le monde va dire. Tu as vendu ta femme pour des brebis? À quelque part, son échange a dû se manifester avec puissance dans sa conscience. Il avait échangé, même si c'était de façon involontaire, son épouse bien-aimée contre des avantages de prospérité. Aux yeux des autres, c'était ça, là. Et ça a dû le travailler, de voir que les gens le regardaient. Mais lui, dans sa tête, il savait que c'était sa femme. Mais les gens alentour, mais sûrement que ça a été un instrument que Dieu s'est servi pour dans sa conscience. Et le dernier point, c'est les faiblesses démasquées. Parce que le Seigneur, bien sûr, ça aurait pu rester comme ça. La femme était rendue avec Pharaon, était rendue dans son harem, lui était riche à craquer. Le Seigneur aurait pu laisser comme ça. Mais remarquez là-dedans la miséricorde de Dieu qui vient te chercher dans ta misère. Et c'est lui qui t'en sort, pas toi. Parce que là, il était vraiment mal pris. Il n'était pas prêt à aller voir Pharaon et dire, écoute, je t'ai compté une menterie. C'était dangereux de compter une menterie à un personnage comme Pharaon ou des rois à cette époque-là. Là. Tu pouvais... Fait que tu ne pouvais pas faire ça. Fait que là, il était dans un problème qui était insoluble. Il ne pouvait plus s'en sortir. Alors, Dieu dit dans le verset 17, ça a pris l'intervention de Dieu pour le sortir de son trouble. Ça peut-tu arriver que le Seigneur nous autres aussi nous mette dans des épreuves, qu'on essaie de s'en sortir nous-mêmes par nos moyens « sages », entre guillemets, puis que tout ce qu'on réussit à faire, c'est comme ils disent en anglais, « a mess ». En anglais, « mess », quand tu dis « tu fais un mess », tu fais un gâchis monumental. Ça nous est tout arrivé de faire des gâchis monumentales. Des fois, en voulant sortir d'une situation, au lieu de s'améliorer, on se rend pire. Voici comment le Seigneur a agi dans le verset 17. « Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, à cause de Saraï, femme d'Abraham. » Alors, dans sa bonté et sa miséricorde, l'Éternel intervient avant que la situation ne s'envenime davantage. Ça n'aurait pas arrivé. Elle était dans l'harem, mais peut-être qu'il n'y avait pas eu consommation encore. Mais c'est sûr que ça arrive un jour. Là. Alors, le Seigneur, il intervient alors que tu es dans... Vraiment, là, tu n'es que là. Et il intervient au bon moment, puis il intervient par la bonne façon. Mais il intervient par sa force à lui. Alors, qu'est-ce que le verset 17 nous enseigne? Il nous enseigne que notre péché finit toujours par nous atteindre. Je me souviens, quand on allait prêcher dans la rue, Lucie, on avait des pancartes, on se mettait dans le cou. Il y en avait une qui faisait littéralement fâcher le monde. Quand elle mettait ce verset-là, là, le monde se choquait, parce que c'est vous ce que ça dit? Ça dit, Nombre 32, verset 23. « Mais si vous n'agissez pas ainsi, voici, vous aurez péché contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous trouvera. » Dans certaines versions, c'est « Sachez que votre péché vous atteindra. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on pêche, des fois on pense qu'on va s'en sortir. Et le Seigneur va toujours faire en sorte que notre péché soit révélé, qu'on en ait honte. La deuxième principe qu'on apprend dans le verset 17, c'est que les partenaires dans le péché, même s'ils ne sont pas volontaires, Pharaon, il n'a pas fait exprès, là. Il dit, regarde, c'est la femme de mon... La femme de ce gars-là m'a à prendre pareil. Puissant. Il ne l'a pas fait parce qu'il a cru ce qu'Abraham a dit. Mais dans le fond, ce que le Seigneur nous enseigne, c'est que ceux qui sont partenaires dans le péché, qu'ils soient impliqués de façon volontaire ou non, ils finissent par payer pour. Voyez-vous, ça dit dans le psaume 105, versets 13 à 15, « Allant de nation en nation et d'un royaume vers un autre royaume, il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux, disant, « Ne touchez pas à mes oints et ne faites point de mal à mes prophètes. » Alors Dieu, les deux principes, c'est que notre péché finit toujours pour nous atteindre. L'autre principe, c'est que des fois, en péchant, on entraîne d'autres dans notre péché, et les conséquences que Dieu permet qu'il arrive touchent des personnes qui, on pourrait dire, sont innocents. Autre chose que le verset 18 et 19 vont faire, c'est qu'il va y avoir une humiliation. Et ça dit, « Alors, Pharaon appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? » Là, la question à se poser, c'est qu'on se demande, comment lui a fait pour savoir que c'était Dieu qui mettait le trouble dans sa famille? Mais il faut croire que Dieu lui-même avait fait en sorte que dans sa tête, il fasse une équation. Si je suis dans le trouble, c'est parce que j'ai pris la femme d'Abraham. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Autrement dit, lui, il est dans le pétrin, puis il se rend compte que s'il est dans le pétrin, c'est parce que l'autre a menti. Imaginez-vous, un chrétien qui se fait faire un reproche par un païen. Ça devrait être la plus grande honte de nos vies, qu'on se fasse reprendre par des païens. Et dans le verset 19, il dit, « Pourquoi tu dis c'est ma sœur? » En sorte que je l'ai prise pour femme. « Maintenant, voici ta femme, prends-la, puis va-t'en. » Mais une chose, on oublie, c'est qu'à cette époque-là, Pharaon était tellement puissant, les rois étaient tellement puissants dans ce temps-là. Aujourd'hui, souvent dans les démocraties, le pouvoir est comme divisé en trois parties, hein, pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. Et qu'on répartit les pouvoirs en parties pour pas qu'il y en ait un qui se prenne pour le Seigneur lui-même. Mais à cette époque-là, les rois avaient le droit de vie ou de mort sur qui que ce soit pour la moindre niaiserie. Puis il n'y a personne qui contestait. Si aujourd'hui, un roi ou un président de pays dirait, « OK, lui, il m'a fait du tort, là. Ziguez, coupez-les du cou. » Aujourd'hui, il y aurait une tollée le monde dirait, « Voyons, non, on vit ici, on est au Canada, là, on n'est pas... » Mais à cette époque-là, tu pouvais faire ça, le roi, puis il n'y avait personne qui avait un mot à dire. Puis il n'y avait personne qui aurait osé dire à Pharaon, « Fais pas ça parce qu'il y a rapproché lui aussi. » Alors, le Seigneur va utiliser souvent l'humiliation de ses élus pour les enseigner et les transformer. On va aller deux passages très rapides, on les a déjà lus. Proverbe, chapitre 3, versets 11 et 12. « Mon fils, ne rejette point la correction de l'Éternel et ne perds pas courage à ce qu'il te reprend, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père. » L'enfant qu'il chérit. Hébreux 12, versets 5 à 7. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Si vous souffrez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils. Car quel est le fils que son père ne châtie point? Autrement dit, recevoir un châtiment de Dieu, c'est une bénédiction. Parce qu'il est en train de s'encrouter dans le mal et qu'il aurait pu avoir des conséquences très, très, très graves. Sa femme aurait pu coucher avec Pharaon et ça aurait été grave. Là. Mais Dieu intervient. Et dans le verset 20, on voit le caractère de Dieu, le caractère divin. Genèse 12, verset 20. « Et Pharaon donna ordre pour lui à des gens qui le reconduisirent, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. » On voit-tu la miséricorde de Dieu là? Pharaon, il aurait pu dire, « Ouais, tu veux rire de moi, toi? » L'envoyer en prison, le torturer, le tuer. Mais Dieu permet que Pharaon soit dans des bonnes dispositions. Alors, il est miséricordieux, il aurait pu permettre que son châtiment soit beaucoup plus sévère. Condamnation à mort, emprisonnement, torture, perte de biens, expulsion du pays. On voit aussi l'omnipotence de Dieu. Parce que seul Dieu a la puissance de frapper de grandes plaies Pharaon et toute sa maison. Alors, Pharaon et toute sa maison, ça veut dire toute sa cour, tout le monde qui vivait autour. Alors, les rois sont toujours entourés de monde. Alors, non seulement le trouble était venu sur Pharaon lui-même, mais était venu sur toute sa maison. Alors, quelque part, les gens ont compris que c'était pas une bonne idée. Et Dieu, on voit aussi sa souveraineté pour voir que Dieu fait en sorte que Pharaon fasse le lien entre ce qui lui arrive et la raison pour laquelle ça arrive. Et on voit aussi que le Seigneur est jaloux de son honneur. Les Écritures nous donnent plusieurs exemples d'intervention divine pour la protection de son honneur. On va prendre juste le Ézéchiel 36, verset 22. Le Seigneur dit, « Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » Autrement dit, il est en train d'emmener du discrédit sous le nom de Dieu, et c'est le Seigneur qui ramène la punition sur les ennemis pour montrer qu'ils n'ont pas agi correctement. Et le Seigneur, bien entendu, nous montre que l'Éternel est juste. Alors, trois applications qu'on voit dans le texte aujourd'hui. Il y en a certainement plus que ça, mais au moins trois. Apprenons avec consternation et humilité que le meilleur des croyants peut tomber dans de graves péchés. Prions constamment, soyons sur nos gardes et veillons. Deuxième application, apprenons que le pire des péchés commis par un véritable croyant n'écartera pas la grâce souveraine et miséricorde de Dieu. Ce n'est pas à cause que Abraham avait commis une faute grave que Dieu a dit, « Ben là, toi, là, je t'avais donné tellement de choses, là, tu ne t'es pas comporté à la hauteur de la situation, tu n'es plus mon enfant. » Donc même ça marche. Le Seigneur nous corrige, il nous châtie, mais il ne nous exclut pas de son plan après qu'on ait reçu le salut. Troisième chose, apprenons que le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Les réprimandes, parfois très sévères, des incroyants et des méchants du monde sont souvent méritées par les membres des églises. C'est bizarre pareil, hein, des fois. On fait des affaires que quand un païen vient nous faire des reproches, quand un païen vient nous réprimander, ça devrait être la plus grande honte qu'on a jamais eue de nos vies. Parce que ça devrait pas être, ça devrait être nous qui les reprend continuellement. Parce qu'on a, la lumière, on a quelque chose pour voir dans l'univers moral. Mais quand c'est un païen qui te reprend, là tu te dis, imaginez-vous l'attitude d'Abraham après que Dieu a eu tout fini son affaire. Là. Il a dit, ouais, un méchant beau nounou qu'il a fait là. Et là tu vois l'étendue de la bêtise que tu as faite et des conséquences que tout cela aurait pu avoir. Alors, on va terminer tout simplement en disant, rendons grâce à Dieu pour son don ineffable, la glorieuse personne de Jésus-Christ.